Chapitre 5. Le débordement. Dans le cadre du débat contradictoire, les stratégies de débordement sont celles qui vont nous permettre non pas de marquer des points, mais bien de remporter la victoire. Pour cela, nous allons chercher à porter les seules blessures dont il est impossible de se remettre, celles qui affectent l'éthos de l'adversaire. Si nous parvenons à le discréditer aux yeux des auditeurs, c'est toute son argumentation qui en sera instantanément neutralisée. Soyons clairs, il s'agit de techniques très agressives. Il est néanmoins crucial de les connaître, si ce n'est pour en user, au moins pour ne pas s'y exposer. 1. Triompher sur un argument réfuté. Souvenons-nous de ce que nous avons vu. Au cours d'un débat, mieux vaut n'avancer qu'un seul argument à la fois. Dans le cas contraire, nous donnerions à notre adversaire l'opportunité d'attaquer la preuve de son choix, puis de prétendre avoir réfuté l'intégralité de notre démonstration. Cette stratégie est assurément aussi efficace que fallacieuse. Elle peut toutefois être poussée encore un cran plus loin. Si nous désirons prendre une option définitive sur la victoire, nous pouvons prendre appui sur une réfutation ponctuelle pour déborder non plus sur l'argumentation de notre adversaire, mais sur son éthos. Nous ne nous contentons pas de dire « cet argument est faux », ni même « cet argument est faux, donc toute l'argumentation est caduque », mais bien « cet argument est tellement faux » que son auteur ne peut qu'être incompétent. Étude de cas. Candidat à l'élection présidentielle, j'affronte ma concurrente lors du traditionnel débat d'entre deux tours. Après quelques passes d'armes, elle tente de mettre brutalement en cause la gestion d'un épineux dossier industriel par le précédent gouvernement. Or, je fronce les sourcils. Il se trouve que je n'étais pas encore ministre à ce moment-là. Alors qu'elle réitère ses accusations, je comprends enfin d'où vient son erreur et, tout sourire, m'empresse de lui faire savoir. « Mais enfin, chère madame, vous vous trompez de dossier. Les phrases que vous citez, je les ai effectivement prononcées, mais au moment du rachat d'une autre société. Vous êtes en train de confondre une entreprise qui fait de la téléphonie avec une autre qui fabrique des turbines. Ce n'est pas exactement la même chose, vous savez. » Pendant que je la crible de mes traits, mon adversaire fouille frénétiquement dans ses fiches, à la recherche d'un élément auquel se raccrocher. Conscient de l'image déplorable qu'elle est en train de donner, je décide de lui porter le coup de grâce. C'est étonnant tout de même, un tel niveau d'amateurisme. Et je comprends maintenant pourquoi vous êtes venu avec un dossier aussi épais. Vous n'avez même pas été capable de mémoriser vos fiches. Alors, soit c'est par manque de travail, soit c'est par défaut de compétences, mais, dans un cas comme dans l'autre, comment pourriez-vous prétendre à gérer un pays? Nos concitoyens méritent mieux que cela. Après cet échange, je suis serein. Je sais que, sauf à commettre une énorme erreur, je serai le prochain président de la République. Décryptage. Si nous voulons déployer une telle stratégie, il va nous falloir attendre une erreur flagrante de la part de notre interlocuteur. Un argument faible, une légère imprécision ou une petite confusion ne suffirait pas. Nous donnerions l'impression d'être arrogants et hautains et le procédé se retournerait contre nous. En revanche, déployée au bon moment et avec suffisamment d'assurance, cette stratégie agira comme un poison mortel. Elle sapera la crédibilité de tout ce que notre adversaire pourra dire par la suite. 2. Triompher sur une contradiction dévoilée. Cette stratégie est très similaire à la précédente, à ceci près qu'au lieu d'exploiter un argument désavoué, nous allons prendre appui sur une contradiction ou une incohérence. Pour le dire en termes rhétoriques, nous utilisons une objection ad hominem, et non plus ad rem, pour déborder sur l'éthos de l'adversaire. Nous ne nous contentons pas de dire « ces deux arguments ne peuvent être soutenus en même temps, il va falloir résoudre la contradiction ». Ni même « ces deux arguments ne peuvent être soutenus en même temps, donc toute l'argumentation est caduque ». Mais bien, cette argumentation est tellement pleine d'incohérences et de contradictions que son auteur ne peut qu'être incapable ou insincère. Étude de cas. Épidémiologiste, j'ai été invité à participer à un débat sur une chaîne d'information afin de commenter une nouvelle résurgence de l'épidémie de coronavirus. Je défends une position modérée. D'après les données dont je dispose, il me semble qu'il est encore trop tôt pour prendre des mesures de restriction drastiques. Face à moi se trouve un autre médecin, très médiatique. Il explique qu'il faudrait au contraire reconfiner tout le pays, cherchant au passage à me faire passer pour un irresponsable. J'ai l'expérience des débats. Je sais que si je ne réagis pas rapidement, ma parole va perdre en crédibilité. Je passe donc à l'attaque. Pardon, cher confrère, mais si je ne me trompe pas, c'est bien vous qui parliez encore d'une grippette il y a quelques mois. Je crois même me souvenir que vous recommandiez aux Français de sortir et de profiter de la vie. Sentant son malaise, je décide d'enfoncer le clou. Écoutez, jusqu'à présent, vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Pas une de vos prédictions ne s'est révélée exacte. Peut-être faudrait-il arrêter de jouer avec votre boule de cristal et recommencer à travailler plutôt que faire le tour des plateaux de télé ? Rouge de colère, il tente de répliquer que certains développements de l'épidémie étaient tout simplement impossibles à prévoir. Trop tard cependant, nous savons tous les deux que sa parole n'a plus aucun poids. Décryptage. Si nous désirons opérer une telle montée en généralité, il va nous falloir mettre à jour soit une incohérence massive dans l'argumentation de notre interlocuteur, soit une contradiction criante entre ce qu'il soutient aujourd'hui et ce qu'il disait hier. Lorsqu'elle est couronnée de succès, toutefois, cette stratégie portera un coup décisif à la crédibilité de l'adversaire. Il risque fort de ne pas s'en remettre. 3. Triompher sur une injure opportune. La dernière stratégie est de loin la plus violente. Elle consiste à attaquer directement l'éthos de l'adversaire. Nous ne nous embarrassons même plus d'utiliser une réfutation ou une contradiction. Nous injurions, brutalement, dans le seul but de discréditer. Il s'agit en somme d'une pure objection ad personam. Toutefois, si nous nous contentons de jeter une insulte au visage de notre interlocuteur, c'est nous qui passerons pour l'agresseur. Il va donc falloir, là encore, utiliser un fondement à partir duquel déborder sur l'éthos. Ce levier, c'est l'interlocuteur qui nous le fournira, par sa propre conduite. Si nous sentons qu'il est en train de donner de lui-même une image ridicule, agaçante ou détestable, nous pouvons nous appuyer sur cela pour forger une injure sur mesure et l'en frapper de toutes nos forces. Il faudra à cette fin faire preuve d'un sens aiguisé de l'affront, parvenir à cristalliser les turpitudes de notre cible en une formule drôle, cruelle et sauvage, se faire poète de l'outrage. Si nous parvenons à pointer très exactement du doigt le comportement qui rend notre adversaire antipathique, nos auditeurs ne verront soudain plus que cela. Ils pouvaient jusqu'alors n'éprouver qu'une forme de malaise sourd et diffus. Mais dès lors que nous serons parvenus à mettre un mot sur leur ressenti, celui-ci leur sautera aux yeux. Nous retrouvons ici ce que nous avons déjà vu concernant la fonction proférentielle du langage. Le simple fait de nommer une réalité contribue à la faire exister. C'est souvent quand nous le disons tout haut que nos auditeurs prennent conscience de ce qu'ils pensaient tout bas. Étude de cas. Responsable politique et chef de l'opposition, je participe à un face-à-face télévisé contre l'actuel Premier ministre. C'est un homme jeune et dynamique, très compétent sur le fond des dossiers, mais peu à l'aise dans la polémique. Quant à moi, j'ai une grande expérience des débats. Dès le début de la confrontation, je sens mon adversaire fébrile. Il se tient mal sur sa chaise, s'agite et ne cesse de m'interrompre. Plus je le sens nerveux et plus, par contraste, je m'emploie à renvoyer une image de calme et de sérénité. Je lui ai déjà demandé à maintes reprises de bien vouloir me laisser parler. En vain. J'imagine que nos auditeurs doivent commencer à partager mon agacement. Quand une nouvelle fois il me coupe la parole, je décide de passer à l'attaque. Écoutez, la tactique qui consiste, parce qu'on est gêné, à interrompre en permanence son adversaire, elle ne marchera pas avec moi. Sur ce terrain, jeune homme, je crois avoir un peu plus d'expérience que vous. Alors, soyez gentil, cessez de vous comporter comme un roquet et laissez-moi parler. J'ai prononcé mon trait avec un grand sourire. Mon adversaire fulmine. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce comportement ? Il n'a jamais autant ressemblé à un adolescent vexé et moi au futur chef du gouvernement. Décryptage. Bien sûr, cette stratégie est aussi violente qu'efficace. Elle n'en est pas pour autant aisée à mettre en place. Il ne faudra pas seulement attendre que l'occasion se présente. Encore devrons-nous, le moment venu, parvenir à la saisir. Cela nécessite que nous soyons en permanence conscients de l'image que notre interlocuteur est en train de renvoyer de lui-même, tout en restant pleinement concentré sur le fond de la discussion. Autant dire, un véritable défi lancé à nos facultés cognitives. Soyons prudents, donc, car si une injure bien placée suffit pour emporter le débat, une insulte inopportune, elle, nous disqualifiera. 4. Se défendre contre une stratégie de débordement. Toute agressive qu'elle soit, les stratégies de débordement peuvent nous offrir la victoire au sein d'un débat contradictoire. Que faire en revanche si nous en sommes victimes? Si c'est l'adversaire qui, profitant d'une idiotie, d'une incohérence ou d'une maladresse, s'apprête à nous percer de sa saillie. Hélas, pas grand-chose. Une fois l'erreur initiale commise, pour peu que notre interlocuteur soit suffisamment habile, il pourra s'engouffrer dans la brèche. Bien sûr, nous pourrons toujours tenter une défense de fortune. La plus évidente consisterait à dévoiler le caractère personnel de l'attaque afin d'espérer en atténuer l'efficacité. Mais dans la mesure où nous aurons, par notre faute, exposé notre flanc à la contre-offensive, cette dénonciation perdrait une grande partie de son bien fondé. Il n'existe donc qu'une véritable solution, éviter de nous placer dans une si mauvaise situation. Débattre avec panache, certes, et détermination, mais en restant prudent et concentré. Ne jamais déblatérer avec légèreté. Les stratégies de débordement peuvent être terribles. Nous ne voulons pas avoir à en payer le prix. Certaines carrières ont été stoppées en une seule répartie.